L'association GPS Cancer a réalisé le 7 décembre 2022 un webinaire sur le thème « Cancer et patients engagés ». À cette occasion, Françoise Célin, la chargée de projet de l'association, a donné la parole à Sandra Doucen, directrice de l'association Cancer Contribution.
Mais Sandra Doucen, qui est aussi donc la directrice de Cancer Contribution, dont je suis aussi vice-présidente, va nous expliquer un petit peu pour elle déjà ce qu'elle constate dans ce rôle du patient bénévole et expliquer un petit peu voilà, quelles sont les motivations en fait, de ces personnes qui s'engagent dans une association, quelle forme aussi que ça peut prendre.
Donc,
aussi.
Voilà, je vais d'abord commencer par vous dire un petit peu quelle association je représente et puis bien évidemment, je vais répondre à la question de Françoise. Donc, je représente l'association Cancer Contribution, qui est une association qui œuvre pour tous les cancers et qui a pour rôle, en fait, de donner l'opportunité à toutes les personnes qui sont concernées par un cancer, que ce soit la personne malade, son proche, voilà, l'ensemble aussi des acteurs professionnels de santé, administratifs, qui luttent contre le cancer, de donner la parole à chacun d'entre eux et de leur permettre d'échanger librement à propos de leur expérience et de leur lutte au quotidien et ensemble bah, de travailler à améliorer les parcours face au cancer. Donc ça, c'est notre travail au quotidien. Et du coup, je remercie GPS Cancer, dont on est membre, de nous donner la parole aujourd'hui sur cet engagement. Donc, ce que nous, on a pu recueillir comme information, effectivement, comme de notre expérience, c'est que les personnes qui sont malades et leurs proches s'engagent. Donc, en France, il y a plus de 16 millions de personnes qui sont bénévoles. C'est un quart de la population et qui s'engagent de différentes manières. Donc, que ce soit dans le monde associatif, que ce soit auprès de leur centre hospitalier qui les prend en charge, que ce soit en donnant du temps, que ce soit en donnant des compétences, il y a beaucoup, beaucoup de manières pour, et puis bien sûr en adhérant et en contribuant par leur générosité à faire vivre les associations. Donc ça, c'est vraiment différentes choses. Et tu me posais la question, Françoise, de pourquoi les gens s'engagent.
Oui.
Ils s'engagent pour donner du sens à ce qu'ils ont vécu. Nous, c'est le premier argument qui nous est remonté. Quand ils ont été face à un cancer, ils s'engagent vraiment pour, dans un parcours de résilience pour certaines personnes en se disant, bah, voilà, ce qui m'est arrivé, bah, je dois en tirer des enseignements et je dois partager mon vécu, effectivement, auprès des autres. Et donc, la deuxième raison de cet engagement.
Oups, attention.
Oui. La deuxième raison de cet engagement, c'est de pouvoir aider les autres. Donc, il y a vraiment une forme d'altruisme qui est typiquement voilà, chez les personnes qui ont traversé un cancer très fort. On le note beaucoup puisque... En France, il y a plus de 1000 associations de patients qui agissent au quotidien pour lutter contre le cancer. Et donc, du coup, effectivement…
Oui, on peut moi, même augmenter. Hein. Oh, c'est même plus que ça.
Hein. Oui, probablement.
Oui.
Voilà, donc moi, c'est les deux raisons principales. Hein. Vraiment, donner du sens à ce qu'on a vécu, en tirer quelque chose. Et puis,
il y a aussi, après, Sandra, il y a aussi une autre forme d'engagement qui est aussi l'engagement dans le plaidoyer.
Oui, alors oui, tu me demandais effectivement quelles étaient les raisons intrinsèques. Après, sur les formes d'engagement, il y en a vraiment de diverses manières. Quand on décide de s'engager dans une association, c'est pour soutenir une cause.
Oui.
Soutenir une cause, ça veut dire, par exemple… il y a différentes causes possibles. Il y a faire que les patients soient moins discriminés, soient moins stigmatisés, faire qu'on lutte contre les inégalités, faire qu'on favorise la recherche. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux qui nécessitent, en fait, de se regrouper, qui nécessitent de réfléchir ensemble, qui nécessitent d'analyser les situations, d'analyser ce qui se passe et de remonter les informations auprès des décideurs. des politiques, des institutions, des hôpitaux. Et donc ça, c'est vraiment le cœur de l'action de Cancer Contribution, c'est de porter la parole, d'aller chercher les expériences des uns et des autres et de réfléchir à améliorer les choses. Et donc, voilà, une des raisons, en tout cas, de l'engagement au sein de Cancer Contribution, qu'il soit ponctuel ou sur du long terme, c'est vraiment de faire changer le système et donc de participer à une forme de plaidoyer ensemble. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, Françoise.
Oui, si, si, tout à fait. Et alors, est-ce que aujourd'hui, on voit une cohabitation, en fait, entre les patients bénévoles et les patients qui se professionnalisent? Donc, pour toi, qu'est-ce que tu vois dans cette évolution? Comment va pour être le bénévolat en santé et en cancérologie, en fait, l'avenir?
Oui, alors en fait, depuis la loi Kouchner, il y a eu beaucoup d'avancées. Et donc, en 2002, je ne sais pas si vous connaissez la loi Kouchner, qui est la loi qui apporte les fondements des droits des patients en France, donc qui est du
8 mars 2002.
Voilà, 4 mars 2002.
Ça fait 20 ans.
Voilà. Et donc, cette loi Kouchner a autorisé, a mis en avant 14 droits et également des droits collectifs. Et un des droits collectifs, c'est de se regrouper en association et pour réfléchir à, pour contribuer aux politiques de santé. Aujourd'hui, les politiques de santé ne peuvent plus être prises sans l'avis des patients, sans l'avis des regroupements de patients, donc des associations. Et donc, l'un des premiers actes, finalement, d'engagement des personnes malades et de leurs proches, a été de représenter les usagers en France, donc de porter la parole et d'être entendu par les institutions. Et en fait, aujourd'hui, on voit que cette évolution, elle se poursuit de différentes manières. On voit que les personnes qui décident de s'engager peuvent le faire sur le long terme, peuvent s'engager de diverses manières, se former et puis effectivement avoir divers rôles comme par exemple des patients qui deviennent, on parle de patients experts, de patients partenaires, de patients ressources. Et donc, du coup, effectivement, il y a une grande partie de la population qui devient tout simplement ponctuellement patient engagé. Donc, par exemple, pour nous, les patients ont une forme d'engagement, ça va être tout simplement de répondre à une enquête. On fait beaucoup d'enquêtes, nous, pour remonter la parole et pour s'engager à faire du plaidoyer sur un sujet en particulier. Et donc, avoir le plus de remontées possibles, c'est déjà un engagement très fort de la part de patients de livrer leur expérience, de répondre à une enquête. Et donc ça, c'est ponctuel et ça sert. Donc ça, c'est une première forme d'engagement, effectivement, nouvelle, qu'on voit se développer de plus en plus. Et donc que ce soit à travers les associations ou à travers les institutions qui font des concertations aussi. Il y a eu une grande concertation il y a 2 ans maintenant sur le plan cancer, pour créer la stratégie décennale de lutte contre les cancers. Et toute personne en France a pu s'investir, contribuer, réfléchir lors de cette concertation. Et ça, c'est grâce aux outils digitaux qui permettent d'aller auprès de plus en plus de personnes, malades, proches et citoyens, pour aller récupérer, leur avis. Et faire que leur avis pèse dans les lois et dans le plaidoyer.
Oui. Et on pourrait aussi ajouter, dans les hôpitaux, il y a les représentants des usagers.
Oui, tout à fait. Alors, lorsqu'on...
Alors, c'est le milieu sanitaire et médico-social, parce que ce n'est pas que juste dans le sanitaire,
Oui, alors on peut être un patient engagé à un poste de représentant des usagers dans des centres hospitaliers, dans des EHPAD. Il y a une réflexion aussi maintenant sur s'engager auprès de maisons de santé, auprès de structures non hospitalières. Donc, tout ça est en train de se développer et c'est un rôle qui est de mettre en avant le point de vue d'une personne qui rentre dans un établissement, dans une structure, et de pouvoir, je dirais, livrer en fait son ressenti, livrer sa réflexion au comité de direction, hein, puisque c'est au sein de comités, qu'on appelle des comités des usagers, qui sont consultés par le comité de direction des établissements, que se fait, je dirais, cet avis, cet engagement. Oui. Donc, ces personnes-là sont appelées les représentants des usagers.